France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La technique est, comme beaucoup de sujets, entre les mains de la philosophie. Demandons-nous ce qu'elle en pense, à l'ère de l'intelligence artificielle et des outils inédits qui sont à notre portée. Et pour commencer cette série, arrêtons-nous sur un texte qui est un immense classique et qui ne semble pas du tout se démoder à en croire les travaux. C'est l'essai de Marcel Mauss de 1934 intitulé « Les techniques du corps » où Mauss nous rappelle que la technique commence avec notre façon de mouvoir notre corps et que marcher, nager et mille autres activités corporelles sont terriblement déterminées par la société à laquelle nous appartenons. Comment la société entre dans nos corps ? C'est par cette question que Mauss, dans les traces de son oncle Émile Durkheim, propose d'aborder la technique. Et c'est passionnant, vous allez voir. Ils sont tous deux agrégés de philo, Durkheim et Mauss, et le premier à inventer la sociologie française à la toute fin du 19e siècle. « L'homme est double », écrit Durkheim en 1897 dans son fameux livre « Le suicide », car, je prolonge la citation, « à l'homme physique se surajoute l'homme social ». Mais comment cela fonctionne-t-il exactement, cette marque de l'homme social sur l'homme physique ? Dans son texte de 1934, Mauss produit une réponse précise, montrant que notre gestuelle est notre première technique proprement sociale, apprise et apprise encore. Pour nous expliquer tout cela, nous avons fait appel aux meilleurs spécialistes de ce pays.
Le concours du sang auteur fut marqué par l'étonnante personnalité de l'Américain Forsbury, qui, après avoir conquis le titre olympique avec 2,24 m, tente trois fois 2,29 m, soit 1 cm de mieux que le record du monde de Brumel. Mais il échoue. Le style de Forsbury est étonnant. Résumons-le. Il prend son élan en biais, s'élève du pied droit, comme pour un saut en ciseaux, effectue ensuite en l'air un demi-tour, le dos tourné à la barre, les épaules les premières, passe cette barre. Pour André Daniel, entraîneur national des sauts, ce style doit permettre à ceux qui n'arrivent pas à assimiler le ventral de pouvoir tout de même arriver à sauter des hauteurs convenables, à condition, bien sûr, d'avoir une bonne détente. Pierre Salviac a rencontré ce jeune Américain, Forsbury, et il lui a demandé pourquoi il sautait de cette façon.
Oh, pour la simple raison que je ne suis pas capable de faire comme les autres. Le rouleau ventral ne me convenait pas. Et comme en ciseaux, je n'améliorais pas mes performances. Eh bien, j'ai cherché un autre style. C'était il y a 5 ans.
D'autres athlètes vont-ils sauter comme vous maintenant ?
Not too many. Once I get past,
vous savez, je ne crois pas. Quand on possède un style, on n'en change pas facilement. Par contre, beaucoup de jeunes ont adopté ma méthode, mais il leur faudra longtemps pour réussir. Quant à moi, eh bien, j'espère battre le record du monde.
It will take a while before they learn.
Et vous venez d'entendre une archive à propos de l'athlète américain Richard Dick Forsbury, inventeur d'une nouvelle technique du saut en hauteur en 1968, technique dorsale, toujours utilisée en saut en hauteur. Le record masculin actuel étant détenu par le Cubain Javier Sotomayor, 2,45 m en 1993, et le record féminin par l'Ukrainienne Yaroslava Maouchik, 2,10 m en 2024. Bonjour Mélanie Plouvier.
Bonjour.
On dit Plouvier ?
Plouvier.
D'accord. Vous êtes professeur de philosophie sociale à l'Université Côte d'Azur. Votre thèse de doctorat portait sur Durkheim. Cela va nous permettre d'aborder Mauss dans sa filiation théorique, tout en notant bien entendu ses inventions propres. Bonjour Jean-François Baird.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et historien des sciences sociales, professeur à l'Université de Lausanne, d'où ce duplex organisé pour vous entendre. Merci à vous et à la Radio Suisse. Vous avez beaucoup écrit sur Marcel Mauss et sur ce texte, les techniques du corps en particulier. Enfin, bonjour Nathan Schlanger. Vous avez aussi publié des travaux très importants sur Marcel Mauss. Vous êtes bien avec nous aujourd'hui. Dites-moi bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs.
Merci. Et notamment, vous avez publié sur ce texte phare, les techniques du corps de 1934. Vous êtes archéologue et historien des sciences sociales, professeur d'archéologie à l'École des Chartes. Et vous allez voir que ce texte de Mauss sur les techniques du corps est un écho direct à l'archive de Forsbury que nous avons passée. Il nous dit très exactement comment un certain nombre d'activités corporelles, notamment sportives, sont acquises, peuvent changer. C'est dur de changer quand on a appris d'une certaine manière. Écoutez Marcel Mauss, les techniques du corps.
J'ai assisté au changement des techniques de la nage du vivant de notre génération. Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu des choses, nous les psychologues, comme les biologistes et comme les sociologues. Autrefois, on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l'eau. Aujourd'hui, la technique est inverse. On commence tout l'apprentissage en habituant l'enfant à se tenir dans l'eau, les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu'il nage, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux. On les familiarise avant tout avec l'eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance, on sélectionne des arrêts et des mouvements. Il y a donc une technique de la plongée et une technique de l'éducation de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu'il s'agit bien d'un enseignement technique et qu'il y a, comme pour toute technique, un apprentissage de la nage. D'autre part, notre génération, ici, a assisté à un changement complet de technique. Nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l'eau. De plus, on a perdu l'usage d'avaler de l'eau et de la cracher, car les nageurs se considéraient de mon temps comme des espèces de bateaux à vapeur. C'était stupide, mais enfin, je fais encore ce geste. Je ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps.
Marcel Mauss, Les techniques du corps, 1934. Nathan Schlanger, il est très difficile, nous dit Mauss, de se débarrasser d'une technique acquise quand on était enfant. Cela semble signifier que la société, puisque c'est souvent un acte social d'apprendre une technique, marque très fortement l'individu. Si la société change ou la communauté sportive change de technique, il est très difficile de passer à autre chose.
Absolument. Un des problèmes associés à cette notion technique du corps, c'est le degré d'incorporation et donc l'habituation, le dressage, dit Marcel Mauss, que chacun subit sur son propre corps. Donc les manières de table, les manières effectivement de nager qui sont différentes. Et dans les exemples que vous avez donnés, il s'agit plutôt de processus d'innovation. Qui graduellement vont s'incorporer dans la société. Mauss en parle beaucoup, l'innovation de la façon de marcher, puisqu'il voit des personnes à New York qui marchent d'une certaine façon, et puis il les voit à nouveau à Paris, les mêmes types de démarches. Donc là, c'est une activité qui est inconsciente, c'est une incorporation inconsciente par émulation de personnes en quelles on a des personnes prestigieuses, des influenceurs, qui s'intègrent dans l'habitus corporel. L'autre exemple que vous avez donné, effectivement, c'est un acte d'innovation délibéré, la méthode Fosbury, où on va tous chercher à imiter et à se rapprocher autant que possible de la gestuelle, de la mécanique musculaire, de ce sportif de haut niveau particulier, étant donné les résultats qu'il obtient.
Mélanie Plouvier, le fait qu'il y ait une marque sur le corps de choses qui sont imposées par la société, notamment par l'éducation, c'est un sujet qui a beaucoup préoccupé, c'est le moins qu'on puisse dire, Émile Durkheim, l'oncle de Marcel Mauss, ce n'est pas un résultat ou une approche nouvelle en soi par rapport à ce qu'avait dit Durkheim. Pour Durkheim, la société marque les choses les plus intimes, elle marque notre psychisme, c'est d'ailleurs tout le caractère incroyable de ce qu'il a dit sur le suicide, qu'il y a une dimension sociale, même si ce n'est pas une causalité stricte et qu'il y a plein d'autres causes au passage à l'acte suicidaire. Ce n'est pas neuf, et pourtant c'est neuf. Alors expliquez-nous, s'il vous plaît.
Effectivement, ce que nous dit Mauss dans cette conférence, c'est que nos postures, nos positions, nos mouvements, et même nos manières de faire repos avec nos corps, la manière dont nous tenons notre corps, est de nature sociale. Et varie socialement, il s'attache à marquer les variations sociales dans nos manières de nous tenir, que ce soit la marche, la nage ou autre. Et de ce fait même, hein, il fait la démonstration par ces variations sociales du fait que le rapport que nous entretenons à ce qui semble être notre, notre propre corps,
oui,
est déterminé socialement. En cela, il prolonge le geste durkheimien, oui, qui vise à montrer comment l'intime et jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes est déterminé socialement. C'était la grande découverte, en un sens, de Durkheim, que de montrer que ce que, jusqu'alors, on prenait pour de l'individuel, du subjectif, de l'intérieur, relevait de formes de détermination sociale qui, jusque-là, étaient relativement peu aperçues. C'est, vous l'avez dit, le grand geste de Durkheim, par exemple, dans le suicide, de montrer que cet acte le plus intime qui soit, la décision de se donner la mort, on a l'impression d'être dans l'intériorité du sujet pensant, du sujet émotif, ça ne relève que de lui seul. Et bien pourtant, une telle décision relève d'une forme de causalité sociale que Durkheim déploie dans son ouvrage de 1897, Le suicide. Donc on voit combien, avec ce texte, Moss prolonge cette détermination sociale, enfin en tout cas ce dévoilement des facteurs sociaux conditionnant jusqu'à notre intériorité. Après, il y a cependant quelque chose effectivement de différent. Alors, entre quoi ? L'oncle et le neveu, oui, dans la mesure où chez Durkheim, cette détermination sociale se joue essentiellement dans le psychisme. C'est cette thématique qu'on trouve dans ses écrits de la conscience collective, des représentations collectives. Le geste formidable accompli par Durkheim, c'est de nous montrer que le social, finalement, c'est en nous. Ce sont des représentations qui sont en nous, mais qui ne viennent pas de nous.
Ce sont des affects aussi.
Ce sont des
puisque,
des
par exemple, l'envie suicidaire, elle est intensifiée.
Ce sont des représentations. Une représentation n'est pas que du concept, hein, mais ce sont des manières de se représenter les choses qui nous font penser, dit-il, agir, sentir d'une certaine manière qui n'est pas strictement individuelle, mais qui est collective. Et là, je crois que le prolongement que fait Marcel Mauss dans ce texte, c'est de montrer que cette détermination sociale va jusque dans le corporel, dans le plus intime du corporel, et pas forcément d'ailleurs, enfin dans un mixte, hein, il nous parle de c'est à la fois du physique, oui, du psychique, du sociologique, qui détermine l'ensemble de l'individu.
Donc ça, c'est une question importante sur le plan des concepts. Est-ce que Marcel Mauss a prolongé de manière tout à fait radicale les intuitions et même les résultats de son oncle Durkheim, ou bien son oncle, ou bien il a introduit une nouvelle dimension? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Baer, sachant que dans les travaux sur Mauss, il a souvent été montré que si Durkheim avait inventé le fait social, il y avait un geste de totalisation, on parle de fait social total, pour Mauss, qui est effectué par Marcel Mauss. Donc, totaliser, le fait, ça, c'est une emprise sur nous entièrement, le psychisme, le corporel, peut-être est-ce la méticulosité de Mauss qui permet cette radicalité. Est-ce que c'est cela qu'il faut retenir de l'emprise sociale selon Marcel Mauss, Jean-François Baer?
Alors c'est une vaste question, hein, les héritages ou les influences de Durkheim sur Mauss. Moi je suis plutôt un partisan de la singularité extrême de Marcel Mauss, surtout après la mort de Durkheim, hein, où on voit qu'il va prendre ses distances, concernant le corps en particulier, concernant aussi l'articulation, peut-être, et c'est ça qui l'intéresse, sociologie, biologie, psychologie, et comment ces trois approches s'articule. C'est très présent dans le texte des techniques du corps, mais c'est présent dans d'autres textes qui précèdent ce texte des techniques du corps. On a souvent fait du texte des techniques du corps une forme d'apax dans la production intellectuelle de Marcel Mauss, une rareté, un texte un peu étrange comme ça, événementiel, alors qu'en fait, quand on regarde un peu précisément, on voit que ce texte est précédé par toute une série de réflexions de Marcel Mauss dans lesquelles déjà il engage un certain nombre de choses. Dès ses premiers travaux en histoire comparée des religions, il va s'intéresser aux pratiques du magicien. Hein, donc on a un premier détour autour de la question de l'efficacité qui est très présente dans les techniques du corps, et vous l'avez montré dans votre exemple sur la nage par exemple, ou même le Fosbury, hein, si ça marche, si je le fais, c'est que c'est efficace. Hein, il y a quand même une pression autour de la question de l'efficacité. Et puis il y a deux textes des années 20 qui vont jouer un rôle, à mon avis, déterminant. Le premier, c'est l'expression obligatoire des sentiments qu'il écrit en 1921. Et le second, c'est l'idée de mort suggérée par la collectivité en 1926. Et c'est deux textes, à mon avis, qui sont pour Marcel Mauss des moyens d'envisager de manière beaucoup plus complexe que ne l'avait fait Durkheim cette articulation entre sociologie, biologie et psychologie.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la thèse des effets physiques chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité, ce texte de Mauss de 1926 qui a une conclusion quand même très impressionnante. On peut mourir parce que la société nous l'aurait en quelque sorte suggéré.
La société peut déterminer jusqu'aux actions neurologiques des individus. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut aller jusqu'à suggérer cette idée que nous sommes pris, par exemple, par un sort ou par une pratique magique. On en est tellement convaincu physiquement et physiologiquement qu'on va se laisser mourir. Donc ça, c'est vraiment une démonstration extrêmement, extrêmement impressionnante. Toujours pour revenir sur cette idée des influences de Durkheim à Mauss. Alors moi, je suis peut-être trop radical dans ma manière de lire Mauss comme étant une singularité. Il faut peut-être remettre de la médiation dans tout ça. Et c'est clair que Durkheim a joué un rôle. Mais il y a quand même, à mon avis, deux choses qui caractérisent le point de vue maussien en particulier sur le corps. Un, c'est cette idée du concret, c'est-à-dire c'est un terme qui revient très souvent sous la plume de Mauss, une anthropologie concrète ou une ethnologie concrète. Qu'est-ce que c'est? C'est faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait de son corps. Et c'est un défi intellectuel et méthodologique à ce moment-là que de décrire ce concret. Et deux, ça c'est une différence radicale avec Durkheim, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que Mauss considère que Durkheim voit les choses de manière trop dualiste, disons-le comme ça, trop caricatural, et que quand on entre dans le concret des situations sociales, il faut changer de logiciel.
Autrement dit, malgré certaines apparences, quand même, chez Durkheim, il y aurait une certaine vision de la séparation esprit-corps, et c'est par l'esprit que la société entre.
Exactement.
Et Mauss prend le contre-pied de cela, c'est sur le corps d'abord que la société entre.
Je pense qu'il n'y a pas de d'abord ni d'origine. C'est un enroulement. Alors, il y a du physiologique, il y a du psychologique et il y a du sociologique. Et c'est ça la complexité maussienne, c'est-à-dire qu'il est très difficile de mettre un point de départ dans tout ça. Prenons plutôt acte du fait que les choses s'enroulent comme une espèce d'immense barbe à papa et essayons de décrire ça. Je pense que ça, c'est l'idée qu'a Marcel Mauss. Il ne s'agit pas de retrouver une origine qu'il serait bien embêté de pouvoir prouver ou d'affirmer dans la suite de son texte. Ce qui rend d'ailleurs son texte aujourd'hui si intéressant et parfois si compliqué à lire, parce que si on reprend l'exemple de la nage...
On va revenir, ça ne vous pas, je voudrais que... J'entends, mais le problème de la nage, c'est que c'est un exemple tellement génial qu'on va, il va nécessiter un développement à lui tout seul. Donc pardonnez-moi, je voudrais faire réagir Nathan Schlanger à ce que vous avez dit, Jean-François Baird, qui est cet enroulement, l'idée que la société s'enroule autour de nous et entre. Enfin, qu'en pensez-vous? Comment vous décririez cette action de la société sur le corps?
Je pense, je voudrais surtout m'attacher à cette notion de concret que Jean-François Baird connaît bien, a beaucoup valorisé. Donc, l'approche de Mauss qui se distingue donc de celle de Durkheim, il est beaucoup moins philosophique, beaucoup moins abstrait. Un apport très important de Mauss, c'est qu'il prend beaucoup plus au sérieux l'ethnographie. Donc, aller chez les autres, comprendre le comportement, observer les coutumes et les productions d'autres peuples. Et
donc, il a lu Malinowski, par exemple.
Il a participé. Alors, bon, Mauss est connu comme un ethnographe de armchair ethnographer, c'est-à-dire qui est assis sur sa chaise et qui lit. Qui sait tout. Il a quand même eu deux expériences très importantes de terrain. La première, la plus importante, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. Pendant 4 ans, il est corps et âme, et corps surtout dans les tranchées. Et une autre petite expérience très intéressante au Maroc, à la fin du protectorat lyotais, où il observe les coutumes et les pratiques et les techniques du corps des personnes au Maroc. Donc, d'une part, Mauss est beaucoup plus attentif à l'observation empirique. Et par ailleurs, aussi, on peut dire, d'un point de vue disons, politique ou idéologique, Mauss est plus marqué vers la gauche que ne l'était Durkheim, qui était un savant républicain, un savant de la République, dans tous les sens du terme. Et Mauss participe déjà à des activités, alors journaliste, puisqu'il travaille dans l'Humanité, Et aussi dans une fabrique de pain, donc il travaille dans une boulangerie pour de lui-même voir et sentir comment les actes de production ont lieu. Et donc cette dimension-là fait que j'aurais dit plutôt que le lien entre le social et le corps avec Mauss passe par les techniques. Ce sont les techniques qui établissent ce rapport entre le corps avec l'effort, le rendement, la routine, la répétition, le rythme, et la façon dont la société va pouvoir s'approprier ou va pouvoir surfer sur ses propriétés pour introduire des représentations collectives et des sentiments généralisés.
Mélanie Plouvier, alors cela voudrait-il dire que chez Durkheim, c'était davantage les idéaux, c'est le terme qu'il emploie beaucoup, notamment à la fin de son livre « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». La société entre en nous par une capacité, elle nous aide à idéaliser. Alors ça veut dire des choses précises, hein, chez Durkheim, forger des concepts, par des rituels qui pour lui sont sociaux, même quand ils semblent religieux. Et cela marquerait moins directement le corps que pour Mauss, où la société nous fait faire techniquement des choses corporelles. Est-ce qu'on peut dire alors, comme ça?
Déjà, j'aimerais nuancer l'idée que Durkheim serait plus philosophique, sans intérêt pour le concret. Quand on lit un ouvrage tel que Les formes élémentaires de la vie religieuse, il y est question de descriptions ethnographiques à toutes les pages. On voit des rituels en train de se faire.
Ça touche les corps. Moi, je suis assez d'accord avec vous.
Il a magistralement animé l'année sociologique, qui est un vaste recueil de descriptions ethnographiques. Enfin, je crois quand même qu'il avait ce goût du concret, des pratiques sociales, et qu'on ne peut pas juste le renvoyer à une tournure d'esprit philosophique. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, ce qui l'intéresse tout particulièrement, c'est de saisir ces idéaux collectifs. Le social, pour Durkheim, c'est d'abord cette capacité que nous avons, nous, sujets humains, à idéaliser, à, nous dit-il, transfiguré. Nous avons cette capacité tout à fait surprenante, et pour lui c'est cela le social, nous avons cette capacité tout à fait surprenante à mettre plus dans les objets que ce qu'il y a. Prenons un exemple célèbre, le drapeau. Le drapeau national, c'est un vulgaire bout de tissu, mais nous y mettons bien plus, nous transfigurons, nous projetons de l'idéal sur bout de tissu. Et c'est cela, cette capacité à transfigurer, qui pour Durkheim fait le social, donc le constitue corps, oui. Le social. Par là même, vous le voyez, ce qui est très intéressant, et alors il qualifie cette position d'hyper-spiritualiste, parce que c'est cette capacité à mettre du spirituel jusque dans le matériel, et ce qui fait que effectivement, si on doit chercher un point de différence, voire de clivage entre l'oncle et le neveu, c'est peut-être que Durkheim se concentre davantage de ce point de vue dans les objets. Par exemple, dans les descriptions rituelles, ce qui va l'intéresser, c'est le fait que on va manier, par exemple, le churinga, qui est une pierre sacrée. C'est une technique, mais qui se matérialise dans un objet, et il va avoir une attention très très précise sur l'objet, plus peut-être que sur le corps prenant l'objet. Ça, effectivement, c'est peut-être là une différence, cette attention aux objets sur lesquels se matérialise cette hyper-spiritualité, plutôt que le corps. Alors, si je peux juste ajouter un point, en relisant ce texte de Mauss, ce qui m'a tout particulièrement frappé et qu'on ne trouve incontestablement pas chez Durkheim, c'est cette attention à la technique dans son caractère opératoire, d'efficacité opératoire. Ça, effectivement, je crois que ça n'est pas chez Durkheim. Dans le texte « Les techniques du corps », dire « technique du corps », c'est dire non seulement que nous avons un rapport social à notre propre corps, mais que ce rapport est opératoire, il est efficace. Et il y a une vraie description de la performance, de l'habileté dans ce texte, dont je ne trouve pas d'équivalent, effectivement, chez Durkheim.
Alors vous n'êtes tous là, pas du tout les seuls, là, dans l'histoire, depuis le texte de 1934 de Mauss, à juger qu'il y a là de la continuité, certes, mais quand même une rupture dans l'attention extrême aux positions du corps. La société nous fait bouger, c'est presque minutieusement. C'est très, il y a une attention là qui déborde sans doute ce que Durkheim avait, sinon pensé, du moins analysé. Et évidemment, je dirais. À tout seigneur, tout honneur, Lévi-Strauss, ici, mérite d'être évoqué. Lui qui a écrit une introduction à l'œuvre de Marcel Mauss en 1950, écoutez son hommage à Mauss.
À deux points de vue différents, Mauss reste en avance sur tous les développements ultérieurs. En ouvrant aux recherches ethnologiques un nouveau territoire, celui des techniques du corps, il ne se bornait pas à reconnaître l'incidence de ce genre d'études sur le problème de l'intégration culturelle. Il soulignait aussi leur importance intrinsèque. Or, à cet égard, rien n'a été fait, ou presque. Depuis 10 ou 15 ans, les ethnologues ont consenti à se pencher sur certaines disciplines corporelles, mais seulement dans la mesure où ils espéraient élucider ainsi les mécanismes par lesquels le groupe modèle les individus à son image. Personne, en vérité, n'a encore abordé cette tâche immense dont Mauss soulignait l'urgente nécessité, à savoir l'inventaire et la description de tous les usages que les hommes, au cours de l'histoire, et surtout à travers le monde, ont fait et continuent de faire de leur corps. Nous collectionnons les produits de l'industrie humaine, nous recueillons des textes, écrits ou oraux, mais les possibilités si nombreuses et variées dont est susceptible cet outil, pourtant universel et placé à la disposition de chacun, qu'est le corps de l'homme, nous continuons à les ignorer, sauf celles, toujours partielles et limitées, qui rentrent dans les exigences de notre culture particulière. Cette connaissance des modalités d'utilisation du corps humain serait pourtant particulièrement nécessaire à une époque où le développement des moyens mécaniques à la disposition de l'homme tend à le détourner de l'exercice et de l'application des moyens corporels.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
C'est une rupture quand même pour Lévi-Strauss, hein. Et surtout, il le dit, Mauss est en avance sur tout ce qui va venir après lui, les développements ultérieurs, dit-il. Ça, c'est, on a l'impression que c'est surtout un talent intuitif du problème qui intéresse Mauss, et c'est cela que Lévi-Strauss salue. Nathan Schlanger, est-ce que le problème qui est soulevé à la fin de ce texte par Lévi-Strauss, à savoir le fait qu'on oubliera à un moment donné que tous les moyens mécaniques à nos dispositions sont liés au corps, une espèce d'oubli là qui risque d'arriver. Ça, Mauss l'avait senti, et est-ce pour cela qu'il avait toujours rappelé que les techniques sont liées au corps ? Il ne faut pas l'oublier.
Oui, il y a beaucoup de cela dans le texte de Lévi-Strauss qui joue un rôle très important dans l'histoire de l'anthropologie et des sciences sociales, puisque cette introduction, qui est désormais publiée en tant que livre à part entière, est effectivement un acte fondateur pour Lévi-Strauss de sa méthode structuraliste. Et c'est lui qui va aller puiser dans Marcel Mauss certains types d'idées, certaines orientations qui vont lui permettre de développer son approche. C'est ainsi Lévi-Strauss qui est qui a assuré le revival, hein, de l'essai sur le don. L'essai sur le don qui a eu très très peu d'écho depuis sa publication en 1924-25. Et c'est Lévi-Strauss qui va en faire le roc de la discipline, l'idée de donner, savoir, recevoir et réciproquer. Donc le fondement de la vie sociale. Pour ce qui est du texte des techniques du corps, donc effectivement, Lévi-Strauss met l'accent sur deux éléments. C'est d'une part la dimension psychologique, le contact, le sensuel. Il parle beaucoup du rapport entre la mère et l'enfant, oui. L'enfant qui est tenu, et donc le rapport du corps comme élément de formation du psyché de l'enfant. Et ce deuxième point là dont nous avons entendu une citation, l'utilisation du corps par rapport à un nouveau monde qui est le monde de la mécanisation, de l'automatisme, dans lequel le sentiment que transmet Lévi-Strauss, qui est le sentiment effectivement de Marcel Mauss, c'est le sentiment de beaucoup de penseurs depuis la fin du XIXe siècle, c'est la perte, le sentiment de la perte, une ethnographie de sauvetage. Il faut absolument enregistrer, identifier, cataloguer les pratiques qui sont en train de disparaître sous la mécanisation, sous l'homogénéisation.
Donc ça, c'est vraiment Mauss, on aurait eu l'intuition, et en tout cas pour Lévi-Strauss, c'est un problème cette perte, la perte d'une mémoire technique, pourrait-on dire, d'une technique du corps. Le fait de mettre un bébé au sein, par exemple, vous venez d'évoquer à peu près ce point, c'est une technique et elle n'est pas tout à fait la même dans toutes les cultures. Et tout cela, nous risquons de l'oublier, d'oublier cette mémoire humaine, mémoire des peuples.
Oui, alors dans le cas de l'intérêt de Mauss pour ces pratiques, c'est pour ça que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure sur le sceau de Fosbury où nous avons un inventeur, une personne qui produit qui met en avant une gestuelle particulière. Mauss est soucieux des pratiques traditionnelles, notamment dans le domaine de la production artisanale, puisqu'il considère que ce sont ces pratiques artisanales qui sont le ciment de la société. Et la société dépend, donc il l'a montré au Maroc, il l'a montré à propos du travail sur la boulangerie, que le fait d'être un artisan qui produit, qui crée, et qui mène à bien son projet matériel et qui en vit et qui en obtient un statut social, est un élément important de notre société actuelle. Et il faut absolument le préserver à l'encontre de cette modernisation contre laquelle il n'est pas tout à fait négatif. Hein. Il apprécie beaucoup aussi la modernité, le cinéma, le jazz, mais en même temps, il pense que le corps et les techniques du corps et notre capacité de les conserver, de les étudier, éventuellement de les reproduire, sont un élément important de la vocation du sociologue.
Et aujourd'hui, où la technique s'active parfois en appuyant juste sur un bouton, c'est quelque chose qui nous fait oublier qu'il n'y a pas de technique sans corps, ou bien la technique s'est-elle coupée du corps ? Je veux dire, juste appuyer sur un bouton, c'est pas comme préparer une pâtisserie, manipuler la pâte, ce n'est pas non plus comme mettre un bébé au sein, ni nager, ni danser. Est-ce que la technologie, en effet, s'est coupée de la question du corps ? Je sais bien que
En large manière, difficile. pour ce qui est des activités de production qui deviennent standardisées, normalisées, les célèbres épingles d'Adam Smith, donc la production qui s'enchaîne, fait qu'effectivement, Charlie Chaplin l'a bien montré, le pauvre, quand il court derrière la machine, qu'il y a une standardisation, une normalisation, un abaissement vers le bas, des activités corporelles. Appuyer sur un bouton, c'est l'image que va reprendre un des élèves de Marcel Mauss, qui est André Leroy Gourand. Donc André Leroy Gourand, dans Le geste et la parole, a quelques idées prophétiques sur nous allons tous évoluer vers un gros doigt qui ne va faire qu'appuyer sur le bouton. Mmh. Alors, ça oublie deux choses. D'une part, que les machines, il faut les construire. Hein, et c'est un phénomène tout à fait moderne aujourd'hui où on voit, nous avons tous notre smartphone, je vais y revenir, mais il y a des gens qui le produisent matériellement et qui ont une gestuelle de production. Et le deuxième aspect, le smartphone aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez la controverse qu'elle a eue à propos des gestes, agrandir, aptissir, tourner les images sur son smartphone qui faisait l'objet d'une controverse, d'un copyright. Copyright de la part d'Apple qui disait « ce geste-là, c'est notre geste et si vous voulez développer une technologie qui permet d'élargir la photo en faisant ce geste, vous devez nous payer. »
Donc je pense si je puis me permettre, Michel Serres a écrit un livre, La petite poussette sur le pouce, et aujourd'hui, c'est pas le pouce qui est en premier lieu concerné sur nos smartphones, c'est l'index et les autres doigts, donc c'est troublant.
Donc je pense qu'il faut pouvoir regarder les deux tendances. D'une part, effectivement, il y a une certaine perte de tout ce qui est tactile, tout ce qui est le savoir-faire traditionnel de l'artisan, mais l'artisan peut-être un peu idéalisé par nous-mêmes. Mmh. Et par ailleurs, il y a quand même, pour être plus optimiste, regarder vers l'avenir, il y a des nouvelles gestuelles, des nouvelles techniques, des nouvelles habiletés qui vont se développer.
Jean-François Baird, on va parler de la nage, ne vous inquiétez pas, nous y allons. Mais je voudrais bien que vous réagissiez à cet échange sur les technologies qui seraient peut-être coupées du corps en avançant dans le progrès technique, notamment l'informatique.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, du point de vue maussien, je pense qu'il faut, distinguer peut-être deux types d'incorporation, d'intériorisation, ou de ce qu'il appelle l'exis et l'habitus. C'est des termes qui sont utilisés par Mauss. Donc, on peut les utiliser. On tourne autour depuis le début, mais on ne les utilise pas pour je ne sais quelle raison. En tout cas, je verrais les choses comme ça. D'abord, il y a une incorporation, une intériorisation, face à l'objet. L'objet dont on se sert, qu'on utilise avec habitude ou pas habitude, mais donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Quand on utilise un marteau, et ben en fait on intériorise quoi ? Ben la percussion, la masse, la vitesse, l'accélération, tout ça, ce sont des choses qui s'incorporent. Ça, c'est le premier niveau peut-être de l'incorporation maussienne. Et donc pour moi, appuyer sur un bouton, ben, ça nécessite une technique du corps au sens maussien. Au sens strictement maussien. Mais il y a un deuxième effet de l'incorporation qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, qui joue un rôle dans ce que vous essayez de questionner. C'est effectivement que une des fonctions du social, nous dit Mauss, c'est donc de s'inscrire au plus profond du corps, mais de nous faire oublier que ces gestes sont appris, en fait. Et ils sont appris longuement, lentement, avec difficulté. Et c'est toute la place. Et s'il faut, à mon avis, dessiner un héritage ou une influence durkheimienne sur Mauss, c'est toute la place dans le texte liée à la question de l'éducation, hein, qu'il appelle dressage. Alors, c'est plus que simplement du dressage extérieur chez Mauss, comme chez Durkheim. Mais il y a quelque chose qui se joue dans l'éducation ou dans ce que Mauss appelle l'imitation ou l'imitation prestigieuse. Donc ça, c'est peut-être les deux éléments qu'il faut garder en tête dans la question de l'incorporation pour pouvoir analyser effectivement ce qui se passe aujourd'hui.
Ah bon, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pensez qu'il y a
aujourd'hui, dans l'émergence de nouvelles techniques du corps, que ce soit appuyer sur un bouton ou parler.
Ou utiliser son index ou son pouce.
Pour Mauss, il est clair que parler à une IA, poser une question, ça relève d'une technique du corps.
Entendu. Alors maintenant, venons à la nage, puisque vous avez évoqué le mot clé du texte de Mauss, l'habitus, qui sera très, très repris en sociologie et singulièrement par Pierre Bourdieu. Pour d'ailleurs évoquer des comportements qui engagent le corps. Hein. On a les comportements corporels, la manière de marcher, de parler, de se tenir dans l'espace qui correspondent à de grandes déterminations sociales dans lesquelles nous avons évolué, nous avons grandi. Eh bien, il y a cet exemple extraordinaire de Mauss, enfin moi je le trouve extraordinaire, qui est qu'il a vu changer la marche des femmes françaises autour de lui. Et il s'est rendu compte, pas tout de suite d'ailleurs, peu après, qu'elle marchait soudain comme les femmes américaines, telles qu'il les avait vues où ? Au cinéma. C'est le cinéma américain qui a fait changer la marche des femmes américaines et des femmes françaises, puisque c'est un cinéma internationalisé. Jean-François Baird, ça c'est un exemple que peut-être Durkheim n'aurait pas traité de cette façon, non ? C'est-à-dire... comment dire, que le cinéma a une influence, qu'on imite, alors ça renvoie à un vieux débat, hein, de Gabriel Tarde et de Durkheim. Gabriel Tarde adorait le concept d'imitation, Durkheim ne l'aimait pas. Et mine de rien, il y a des choses qui fonctionnent par imitation.
Oui, alors c'est ce fameux concept d'imitation prestigieuse. On n'imite pas tout et n'importe quoi, on imite ce qui a une efficacité. On en revient à cette question de l'efficacité. Efficacité réelle, ou efficacité symbolique, hein. C'est les deux. Il faut jouer avec les deux. Je vous dirais pourquoi est-ce que Mauss, à mon avis, s'est focalisé sur la marche des infirmières qu'il a vues. C'est parce que lui-même était alité et immobilisé. Il était à New York en 1926. Il est malade. Il est à l'hôpital et en fait, il a que ça à faire, c'est-à-dire regarder les jeunes infirmières qui passent devant lui. Mais son esprit d'anthropologue et de comparatiste fait le reste d'une certaine manière. Donc c'est assez amusant de voir que c'est en étant couché et alité que l'on s'intéresse à la question de la marche et de la démarche. Alors, c'est plutôt la démarche que la marche. C'est-à-dire, c'est l'adaptation ou l'adoption d'un style particulier. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il a un autre exemple sur le claudiquement typique des jeunes filles mélanésiennes, Lonnie Hoy, et donc il fait une espèce de comparaison dans sa tête entre cette démarche des infirmières et cette démarche des jeunes filles mélanésiennes.
Et donc, ça n'est pas comme la
force
comme
du comparatisme.
Oui, Mélanie Pouvier, la nage. Nous devons nous concentrer très fort pour évoluer dans nos techniques, pour ne plus faire des choses très bizarres qu'on faisait apparemment, prendre de l'eau, la recracher, enfin tout ce qu'il était obligé de faire, Mauss en son temps. Mais la marche, c'est beaucoup plus subtil. On ne sait pas qu'on a changé de technique.
Alors, effectivement, ce que je trouve très, très intéressant hein, dans cette manière d'appréhender des manières de se mouvoir, de se rapporter à notre propre corps, alors, qui changent et dont le principe de changement serait limitation. Là, effectivement, je crois que Durkheim n'aurait pas pu dire ça. On sait combien Durkheim hein, s'est opposé à Gabriel Tarde sur cette question de limitation. Gabriel Tarde prétendait que les faits sociaux étaient des faits généraux parce qu'ils se répandaient entre les individus selon un principe d'imitation. Durkheim, au contraire, défend dans les règles de la méthode sociologique qu'un fait social est général parce qu'il est social.
Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas influencés par le comportement d'autres individus? Nous sommes, nous, chacun d'entre nous, chaque individu, influencé par ce qu'il appelle le tout social.
Par le tout social. Et donc, ce n'est pas...
C'est un peu difficile à faire comprendre. Hein.
Concrètement, je ne vais pas adopter une pratique parce que je la vois pratiquée par un tel. Cet un tel fut-il prestigieux à mes yeux. Mais lui, comme moi, subissons la même influence sociale, ce qui explique que nous ayons la même pratique. Donc vraiment, Durkheim était opposé à cette idée d'une généralisation des pratiques sociale par la voie de l'imitation. Moi, en relisant le texte de Mauss, ce qui m'a beaucoup interrogée, je pose aussi la question à mes camarades, c'est de se demander, mais finalement, chez Mauss, qu'est-ce qui explique que telle société adopte telle pratique corporelle? Pourquoi les Anglais marchent-ils de telle manière? Pourquoi les Français marchent-ils de telle manière? En d'autres termes, qu'est-ce qui explique cette relativisation sociale des pratiques corporelles? Alors, Mauss a une phrase à un moment tout à fait surprenant. Il parle d'un choix social des principes de mouvement. Un choix social des principes de mouvement. Donc, chaque société opérerait un choix quant à la manière la plus efficace de mouvoir, par exemple, les corps. En durkheimienne, ce qui est tout à fait surprenant ici, c'est ce terme de choix. Qu'il y ait une nature sociale des principes de mouvement.
Ça peut être un choix inconscient.
Voilà. Oui, il a quand même utilisé le terme de choix. Et derrière, j'y vois ce qu'on disait tout à l'heure sur ces techniques qui sont des techniques performantes. Il y a une adaptation moyen-fin dans la technique et qui semble quasiment être un choix social, un choix volontaire ou conscient, je ne sais pas. On n'est pas dans l'ordre de la convention, incontestablement. Il n'y a pas une convention qui fait que les Français ont adopté tel mode de marche. Mais pour autant, il y a une dimension de choix qui m'interroge beaucoup et dont je suis persuadée qu'elle ne se trouve pas chez Durkheim, effectivement.
Et ce n'est pas un choix toujours parce que la nouvelle technique est plus performante. Dans le cas des femmes américaines, franchement, rien ne prouve que leur façon de marcher soit plus performante. Il se trouve juste qu'elles nous marquent. C'est un choix. De quoi s'agit-il, Nathan Schlanger ?
Je crois que il faut ajouter un élément à cette réflexion, c'est donc les notions de technique, encore une fois, qui pour Mauss, les techniques sont arbitraires. Il y a un arbitraire, même dans des éléments que l'on aurait pu considérer comme les plus déterminés par des forces naturelles, physiques, chimiques. Il y a toujours la possibilité de choisir consciemment ou inconsciemment entre différentes options possibles. Et donc, quand Mauss parle des techniques, quand il dit dans le préliminaire de son article, les pages les plus importantes peut-être, où il explique comment il en est venu à cette idée, il dit, voilà, ce sont des techniques justement parce qu'elles laissent la possibilité, une marge de choix et de décision. Et dès que le choix qui est arbitraire peut s'expliquer, mais dès que le choix est arbitraire et accepté, il devient nécessaire. Et donc la nécessité de procéder d'une façon ou d'une autre ne provient pas de la nature empirique des choses, en quelque sorte, mais de la force sociale. Mm-hmm. Et la force sociale fait que l'on va adopter une certaine méthode, démarche, plus qu'une autre.
Alors, les Américaines au cinéma, pourquoi ça nous change. Alors, dit-il, dans les années 30, les femmes françaises se sont mises à marcher comme les actrices américaines. Est-ce que c'est de l'imitation qui ressemble à ce que Tarde disait et que Durkheim ne voulait pas entendre? Est-ce que c'est une sorte de tout social international, si j'ose dire, véhiculé par le cinéma, qui fait que chacun d'entre nous est marqué? On n'imite pas des individus, on est marqué par une nouvelle norme. Comment ça marche et pourquoi est-ce si différent justement de la nage? Où là, il faut être conscient, on va arrêter de nager comme ça, se mettre ou le saut en hauteur, arrêter de sauter en ventrale, sauter en dorsale, ça n'a rien à voir d'une certaine manière.
Je suis pas sûr qu'il faut être conscient quand on nage. Au contraire, si on est conscient de ses gestes, on va sombrer. C'est ce que dit très bien l'anthropologue Tim Ingold à propos de la bicyclette. Dès qu'on commence à réfléchir sur où sont nos jambes, où sont nos bras, on va tomber. Donc, il y a un certain moment, effectivement, le processus d'apprentissage est suivi par une incorporation qui fait inconscience, la routine, qui, justement, ne nécessite pas la réflexion, qui est perturbatrice dans le déroulement de l'action.
Donc, ce n'est pas si différent, en fait, ces deux exemples. Jean-François Baer.
Il me semble qu'il y a des choses différentes. La première des choses, vous avez raison, je crois que Mauss a été l'un des premiers à mettre l'accent sur les effets potentiellement... pas négatif, mais étrange, de ce qu'on peut appeler l'internationalisation des phénomènes sociaux. Et donc là, sa prise en compte du cinéma montre ça. Dans un autre grand texte de Mauss qui s'appelle La Nation, il va beaucoup s'intéresser à ces phénomènes d'internationalisation, des choses qui vous font faire perdre l'identité culturelle en fait des sociétés ou des cultures. Ça revient avec à ce qu'on a dit précédemment sur cette question de l'arbitraire du social. Avec l'arbitraire du social, il y a quelque chose qui fascine Mauss, c'est la variation et la variété, en fait. C'est d'où on explique cette variation, cette extrême variation dans le fait que l'on marche, que l'on nage, et que d'une société à une autre, parfois voisine, ben, on nage pas de la même manière. C'est quand même très étrange. Bon, ça, c'est la force du social, c'est la force du culturel. Pour revenir sur la marche, je vois une différence fondamentale avec la nage. La nage, vous avez juste besoin d'un maillot de bain, et encore, pour certains, vous pouvez y aller toute nue. Pour la marche, vous avez les chaussures. Là, il y a l'introduction d'une technique instrumentale. Et évidemment, chaussures à talons, pas chaussures à talons, vous ne marchez pas de la même manière, vous n'adoptez pas la même démarche. J'ajoute encore un dernier élément sur lequel Mauss était attentif, le conformisme. Le conformisme social, si les infirmières à l'hôpital à New York marchent toutes de la même manière, c'est qu'il y a du conformisme. C'est aussi quelque chose sur lequel Mauss avait un regard intéressé.
Oui, conformisme, mais on ne sait pas si c'est à cause d'une limitation interindividuelle ou à cause de déterminations sociales plus complexes. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Nathan Schlanger.
Jean-François soulève la question de l'objet et de l'outil. Je crois que vous avez parlé au début de votre émission
l'outil. Avec
votre collègue Xavier Mauduit. L'outil et sa place dans les techniques du corps. Donc, pour Mauss, c'était évident que il allait, puisque selon mon interprétation, il commence par s'intéresser aux techniques et il voit le corps comme un chapitre ou un élément du complexus technique, la présence de l'instrument, la présence de l'outil, la présence de l'objet, la présence de ce qu'on a appelé, alors pas tellement dans sa tradition de recherche, mais par la suite, la culture matérielle. Le fait que nous sommes toujours entourés d'objets. Alors, j'apprends à Jean-François que l'on peut aussi marcher sans chaussures.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'était pas le cas des infirmières, je pense.
peut-être pas en Suisse, meilleur pour la santé de se déplacer de cette façon. Mais Mauss dit, le corps est le premier et plus naturel instrument de l'homme, mais il lui est évident qu'il y a toujours, on dort avec oreiller ou on dort sans oreiller, donc ça fait la présence de l'objet, de l'outil, fait partie de cette modularité intrinsèque. Donc,
puis avec des talons, on peut marcher de différentes façons, avec les mêmes talons.
Les mêmes talons, on peut marcher, voilà.
Donc, c'est... Bon, évidemment, là, c'est le génie de Mauss, quand même. C'est-à-dire que ça fait presque 100 ans que ce texte a été écrit, enfin, j'exagère à peine, et... On trouve encore génial. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que le cinéma américain a changé la manière dont les femmes marchent. Et de ce point de vue-là, vous qui êtes une spécialiste de Durkheim, Mélanie Plouvier, On parlait au début des continuités, des ruptures entre eux. Ce qui est la vraie rupture, c'est le style, quand même. C'est-à-dire que la vie quotidienne est pour Mauss un sujet sociologique, alors que Durkheim avait si peur de faire droit seulement au sens commun. Il fallait que la sociologie rompe, ouvre une autre dimension que notre regard ordinaire. Et là, Mauss, il était beaucoup plus décontracté avec ses questions méthodologiques.
Alors, effectivement, peut-être que il y avait une sociologie héroïque au moment où Durkheim écrit, qui avait besoin d'être héroïque en ce sens qu'elle constituait son domaine. Il faut quand même, je pense, si on réfléchit bien, aujourd'hui, tout ça nous semble en partie évident, que nous soyons déterminés socialement, que le rapport que nous entretenons nous-mêmes à notre propre corps soit déterminé socialement, ça nous paraît comme une évidence. Durkheim sont passés par là, Mauss est passé par là, Bourdieu est passé par là. Ça nous paraît totalement évident. Il faut se replacer quand même au 19e siècle, fin 19e siècle. Le social n'était pas un champ du savoir, n'était pas un objet déjà découpé en lui-même. La sociologie a dû faire œuvre, hein, vraiment pour révéler tout au long du 19e siècle des déterminations qui n'avaient pas l'évidence qu'elles ont aujourd'hui pour nous. Alors peut-être qu'effectivement, de ce point de vue, Durkheim pratiquait une sociologie plus héroïque, en ce sens qu'elle avait à dévoiler ce nouveau champ de détermination, et peut-être que Mauss était davantage dans une attention aux gestes du quotidien.
C'est un immense guitariste que vous entendez, Rory Gallagher, Tattooed Lady, une chanson de 1973. Le tatouage est une technique du corps, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais c'en est une. Et par ailleurs, la virtuosité de Gallagher, c'est la meilleure transition possible avec l'émission de demain où nous parlerons de la virtuosité technique. Vous verrez une autre émission autour des techniques et du corps. Merci Mélanie Blouvier, merci Nathan Schlanger, merci Jean-François Baer. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse au pouvoir des fables. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi avons-nous besoin des fables ? Chacun de nous, en France au moins, connaît quelques fables que nous avons apprises tout petit à l'école. Il faut supposer, peut-être espérer, que c'est toujours le cas dans les écoles maternelles ou primaires. Ainsi, les fables 1 et 2 du livre 1 des fables de La Fontaine. La première, c'est la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, ou alors le corbeau et le renard, numéro 2 du livre 1, ce sont les deux premières, peut-être les plus célèbres, les plus éducatrices. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Ainsi commencent ces deux fables avec un récit qui a fait l'éducation, sinon du genre humain, n'allons pas aussi loin, au moins de la nation française pendant quelques siècles depuis la fin du 17e au moins. Eh bien, ces fables qui peuvent nous paraître si primaires, si primitives, primaires au sens de l'école primaire, primitives au sens des besoins enfantins les plus fondamentaux, des besoins et des peurs aussi de chacun d'entre nous, ces fables ont pourtant déjà quelque chose de très élaboré. Ce sont des mises en forme très subtiles, avec des mises en scène animales, des morales à la fin des fables, des leçons qu'il faut en tirer, des aventures de ces personnages, le corbeau qui se fait tromper par le renard, et la cigale et la fourmi qui se donnent des leçons l'une à l'autre, la cigale qui croit être plus maligne que la fourmi parce qu'elle chante mieux, mais qui est moins prudente et qui, à la fin de la fable, se trouve dépourvue quand la bise fut venue. Ces fables, pourtant, sont peut-être justement déjà très élaborées. Le pouvoir des fables, le plaisir des fables aussi, comme dit La Fontaine lui-même, j'y prendrais un plaisir extrême. Le pouvoir des fables renvoie peut-être à quelque chose de plus profond encore que ce plaisir enfantin de la représentation animale et de la morale subtile du XVIIe siècle, avec l'art du versificateur, ses décrochements, ses raccourcis, ses subtilités extraordinaires qui s'ancrent dans la mémoire de la langue française. Il y a peut-être dans la fable quelque chose de plus primitif encore. C'est ce qui nous captive, c'est le récit de quelque chose qui arrive à quelqu'un face à un danger qui nous menace tous. Ainsi, le corbeau qui est dont la naïveté n'est pas seulement ridicule, elle est aussi dangereuse et potentiellement mortelle. Peut-être que nous autres, nous tremblons quand nous entendons encore le corbeau se faire tromper par le renard. La cigale aussi qui est naïve au point de mourir de faim et la fourmi qui ne lui prêtera pas. Il y a toujours deux dangers dans la fable. Le danger vital, objectif, immédiat et la tromperie d'autrui qui ne vient pas à notre secours, car la fourmi ne viendra pas aider la cigale, car le renard ne viendra pas aider le corbeau, car le loup mangera l'agneau à la fin de la fable du loup et de l'agneau. Il y a donc dans la fabulation une manière de maîtriser des peurs primitives. Et celui qui peut-être est allé le plus loin pour définir ainsi la fable, c'est Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. Pour lui, en effet, il ne faut pas parler de la fable en général, ni même de l'imagination, mais de la fabulation comme pouvoir de nous accompagner face aux dangers de la vie, comme récit toujours de quelque chose qui arrive à quelqu'un et qui vient nous aider, un imaginaire qui surgit à notre secours. C'est la source, selon lui, de la religion close et de toute la mythologie. Il y a des peurs primitives qui font surgir des figures qui viennent nous aider, beaucoup plus primitives et beaucoup plus radicales que le corbeau et le renard ou le loup et l'agneau. Ce sont les dieux de la mythologie, les dieux aussi de la guerre, nous contre les autres, pour nous défendre. La fable est à la fois primaire et dangereuse. La fable est aussi profonde que la vie humaine.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli et Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.